Bonsoir tout le monde, à la recherche du groove perdu numéro 71 consacré à l'influence du jazz en Afrique. On va s'intéresser à l'emprise de ce style apparu à la fin du 19e en Louisiane sur les générations africaines qui ont grandi sous la dépendance des grands empires coloniaux comme ceux de France, Angleterre, Belgique ou Portugal. Le jazz est entré en Afrique dès le début de son histoire puisqu'on rencontre des orchestres de Dixieland ou de ragtime dès les années 20 en Afrique du Sud, comme les Dark Sound Strutters ou le Big Four of Johannesburg, ou encore au Ghana avec la création du Jazz Kings of Accra. Il se développe grâce à la concomitance de plusieurs facteurs que je vais rappeler. En premier lieu, la présence très précoce des infrastructures de diffusion et production de musique, la forte implantation des radios coloniales comme la puissante Radio Brazzaville qui émet dans toute l'Afrique équatoriale, permet la propagation rapide des musiques occidentales. Et dès les années 20, les maisons de disques occidentales s'installent, gramophones notamment, et ouvrent de nombreux studios d'enregistrement la décennie suivante. Deuxième facteur, c'est la grande facilité de la plupart des musiciens africains à intégrer dans leur propre musique des éléments des musiques étrangères. Ainsi, le highlife, énorme machine musicale, naît d'abord au Ghana, mais qui influencera toutes les musiques du Golfe de Guinée, le résultat de la rencontre entre la palm music de Sierra Leone, la musique de fanfare et du jazz. Troisième facteur, la visite sur le continent africain de plusieurs jazzmen américains de renom, soit pour y retrouver leurs racines, soit pour conquérir un nouveau public. Ainsi, dès 55, Louis Armstrong vient jouer à Accra, au Ghana, et influencera durablement le trompettiste E.T. Mensah, grand ambassadeur du highlife. Enfin, le nationalisme ou le panafricanisme, comme on dit, développé par les jeunes présidents au lendemain de l'indépendance, sera le fondement d'une politique culturelle volontariste, avec la création d'orchestres nationaux, dont la fonction principale sera la défense d'une culture nationale et pluriethnique. Les nouveaux gouvernements, au Guinée ou encore au Mali, vont ainsi provoquer la rencontre de musiciens très divers et par ce fait faire évoluer considérablement la musique de leur pays. En Guinée, la firme d'État Silifone sera chargée de promouvoir ses orchestres nationaux. Même si cette nouvelle musique est fort loin d'une scène jazz à proprement parler, elle partage avec elle la conduite de grands orchestres de cuivre, dans lesquels le talent et la technicité de certaines individualités ont souvent émergé. Sur la carte du jazz africain, l'Afrique du Sud est sans conteste le pays qui donna au jazz les plus grands noms. Dès les années 30, le marabi, style local, s'enrichit de cuivre pour donner un genre à succès similaire au swing. On parlera même de marabi time en résonance à la swing area des États-Unis. C'est dans ce pays surtout que le jazz fut le plus abouti et le plus proche des acceptations du genre en Occident. Comme le pays, la scène musicale sud-africaine était coupée en deux par l'apartheid qui interdisait aux musiciens noirs et blancs de jouer ensemble. Il ne leur restait que l'exil en Europe ou en Amérique pour continuer à jouer une musique forcément métissée. L'exil leur permettra une confrontation directe avec leurs homologues occidentaux dont la technicité instrumentale était plus développé. On peut citer plusieurs artistes sud-africains de renom ayant œuvré dans le jazz. Le pianiste Dollar Brand, alias Abdullah Ibrahim, après sa conversion à l'islam, reste le plus connu des jazzmen sud-africains. Après un début de carrière dans son pays natal où il fonde le septet Jazz Epistles, au sein duquel officie aussi le célèbre Hugh Masekela, futur star de la trompette et de l'afro-jazz. Le pianiste s'envole pour l'Europe en 62 où il est repéré par Duke Ellington qui l'accompagnera durant toute la décennie. Il lui fera enregistrer ses premiers albums et l'engagera occasionnellement dans son orchestre. Autre pianiste et chef-d'œuvre célèbre du Perry, Chris McGregor, qui est mort en 90, a connu un parcours un peu similaire puisqu'il a dû s'exiler à Londres en 64. Parti avec son septet les Blue Notes, McGregor rencontre la fine fleur du jazz britannique. Avec eux, agrandit son groupe, devenu le Brotherhood of Breath, la confrérie du souffle, qui deviendra un des big bands d'avant-garde les plus réputés des années 70. Autre artiste de renommée internationale ayant débuté sa carrière dans ce style, il s'agit de la grande Myriam Makeba, décédée en novembre 2008 de son vrai nom Zenzi. Makeba, connue dans le monde entier pour son titre Pata Pata, était une des plus grandes figures de la lutte anti-apartheid. Née à Johannesburg le 4 mars 1932, elle fut d'abord la voix du groupe de Manhattan Brothers, qu'elle accompagna en tournée aux États-Unis en 1959. Le succès international arrive pour elle définitivement avec ce titre, Pata Pata, une chanson écrite en 1956, puis enregistrée en 1962. En 1965, elle fut la première femme noire à obtenir un Grammy Award, partagé avec le chanteur Harry Belafonte, qui œuvrait dans le Calypso. Pour leur disque commun, An Evening with Harry Belafonte and Myriam Makeba. Après une série de concerts dans le monde entier, l'État sud-africain l'avait déchu de sa nationalité pour sa participation à un film anti-apartheid, film intitulé Come Back to Africa, l'empêchant de revenir assister aux funérailles de sa mère et interdisant même sa musique. Durant 31 ans, elle va vivre loin de son pays et dernièrement en France, puisque c'est dans ce pays qu'elle s'est éteinte, il me semble. En 90, alors qu'elle vient d'obtenir la nationalité française, Mandela finit par la persuader de revenir en Afrique du Sud. En 92, elle fait une apparition dans le film Sarafina, qui raconte les émeutes de Soweto en 76. Elle sortira son dernier album en 2000. On va s'écouter un titre dans la série qui suit de Myriam Makeba, accompagnée par le groupe The Skylarks, un morceau de 59 avant qu'elle ne soit connue. Puis quelques autres titres de Swing Marabi, en commençant par un morceau de 1944 de Thomas Mabiletsa. Bonne écoute, il y a 8 morceaux au total. La playlist complète, vous la retrouvez sur le site. C'est parti pour cette première série de Swing Marabi dans cette émission African Jazz. C'est parti, à toutes. Thank you.
Dizokwenza nombi kanga, dizokwenza nombi kanga, dizokwenza nombi kanga, dizokwenza nombi kanga, tu lu 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 tu, tu lu 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 tu, wale lomtan, nachengo meva, haingo meva, itolofi, wale lomtan, nachengo meva, haingo meva, itolofi. And you can tell it no bagute, it's on a sunny thing only. And you can tell it no bagute, it's on a sunny thing only. Wale lomtan, wale lomtan, wale lomtan, it all of it. Wale lomtan, wale lomtan, wale lomtan, it all of it.
Yeah.
À part le jazz sud-africain qui a su s'exporter, l'Afrique ne connaît pas d'autres véritables scènes jazz, à proprement parler, au moins qui ressemblent à celles des États-Unis. Les genres musicaux que s'est donné l'industrie musicale occidentale pour mieux stratifier et mieux vendre la musique sont inexistants en Afrique. D'autre part, la finalité de la musique en Afrique et l'énorme brassage culturel induit par la colonisation fait que le jazz n'est qu'une infime partie de la richesse musicale africaine. Il va se mêler tout au long du XXe siècle aux différents styles africains. Au Nigeria, il y a bien sûr l'afrobeat dont le groove et l'improvisation peuvent être rapprochés du jazz américain. Mais avant l'émergence de ce style, à la fin des années 60, pas mal d'artistes se sont appuyés sur le jazz et l'ont mêlé avec des rythmiques locales. On s'écoute deux artistes adeptes de cette fusion antérieure à l'afrobeat. Le premier sera Ginger Johnson et le second, le trompettiste et percussionniste Ray Stephen Oche.
Thank you.
Autre style en vogue dans les années 60 dans cette région d'Afrique et qui doit en partie son groove à l'influence du jazz, il s'agit du high life qui s'est écouté dans tout le golfe de Guinée et particulièrement au Ghana, son pays de naissance. On s'écoute trois pistes, deux classiques, dont un du Uhuru Dance Band, Betumi Awo, un classique. Le deuxième, Ete Mensa. Et le troisième, un son afro-jazz du dénommé Saka Akai avec son African Ensemble, son pioché sur le blog musical Trip qui s'appelle le Congo Beat. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes. À toutes.
The way we find her, waiting for the taxi. Oh, we are Sankole, we are. Oh, the way we find her receiving the dollar.
Oh, we are Sankole, we are.
Oh, the way we find her taking back the taxi.
Oh, we are Sankole, we are. Oh,
pays à l'honneur aujourd'hui, le Congo Brazzaville. L'histoire de l'émergence du jazz dans cette ancienne colonie belge est étroitement liée à celle de la maison de disques Ngoma, qui deviendra ensuite une maison d'édition. Créée en 1948, elle est l'œuvre d'un homme d'affaires grec, Nico Géronimidis, secondé par son frère Alex, qui reprendra le flambeau après la mort du premier. Au début des années 50, cet événement intervient 20 ans après l'apparition en Europe des premiers disques micro-sillons de longue durée, les fameux 78 tours. Les éditions Goma ont formé plusieurs orchestres considérés comme les meilleurs de l'époque. Vegan Band, Dynamic Jazz ou encore Mysterious Jazz. Ce sont dans ces archives qu'a fouillé le digger DJ Blue Flamingo pour son disque concept appelé Congo Jazz. Il s'agit ici entre autres de 78 tours rares de son jazzy antérieur à la rumba congolaise des années 50. Le premier morceau est étonnant, Jungle Crew, puisqu'il s'agit d'une orchestration typiquement jazzy pour la section cuivre, mais on trouve derrière un beat qui ressemble étrangement au Nyabingi jamaïcain, et c'est pas si étonnant que ça puisque le Nyabingi provient de ce pays, du Congo. Les deux autres morceaux sont également très bons et montrent la variante locale qu'apprécie le jazz. Congo Jazz de Blue Flamingo.
Thank you.
Après le Congo Brazzaville, on quitte l'Afrique noire, direction l'Afrique du Nord et l'Égypte. Et son représentant du jour, le batteur et percussionniste Salah Ragab. Son album nommé Egyptian Jazz, enregistré avec le Cairo Jazz Band, est une pure merveille. On s'écoute deux morceaux qui reflètent la très très haute teneur de l'album. Le premier s'appelle Down et le suivant Mervat, Salah Ragab and the Cairo Jazz Band. Termine cette approche de l'extension du jazz en Afrique avec l'Éthiopie, où naîtra à la fin des années 60 l'Ethio Jazz. C'est le génial Mulatu Astatke, un des premiers musiciens éthiopiens à voyager en Europe, à Londres et aux États-Unis, à New York. Il ne se contentera pas de côtoyer la diaspora, il va aller à la rencontre des autres musiques. Et il ramènera dans ses bagages et dans sa tête les sons qu'il a entendus là-bas, du jazz bien sûr, mais aussi des musiques caribéennes et latino-américaines, du funk, de la soul. Dans les trois titres qui vont passer, le jazz est omniprésent dans l'ornementation des cuivres, mais ce qui prédomine, c'est ce groove typiquement éthiopien qu'on commence à bien connaître depuis quelques années grâce au label Duda Music. On commence par une tuerie, un de mes morceaux préférés dans ce style, MNT, que j'ai déjà passé dans l'émission il y a 2 ans de ça, au tout début. Ce sera le premier morceau, ensuite Dewell, beaucoup plus jazz, et enfin un morceau qui s'intitule Netsanet. Voilà pour ces 3 morceaux d'Ethio Jazz du grand Mulatu Astatke. À toutes. Pour ce petit tour d'horizon du jazz africain et ses dérives locales. La semaine prochaine, un petit peu dans la continuité de cette émission, on s'intéressera à l'influence de l'Afrique sur la musique de la diaspora afro-américaine, et particulièrement le jazz dans une session afro-jazz où on écoutera entre autres Randy Weston, Art Blakey, ou encore Babatunde Olatunji. À la semaine prochaine donc. C'était À la recherche du groove perdu sur RDWA. À la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne semaine, ciao.